Grand dossier de la semaine, l'Iran, le Groenland, le procès de Marine Le Pen, vous les retrouverez dans la revue de presse d'Hervé Gattegnaud et nous en parlerons avec nos esprits libres. Aujourd'hui, Jean-Marie Colombani et Géraldine Vosner. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h, souriez, c'est vendredi.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Lénaïque Monnier pour le journal. Bonjour Lénaïque.
Bonjour David, bonjour à tous. Après la dermatose, le spectre de la tuberculose, de quoi raviver l'inquiétude des agriculteurs. La Russie inquiète elle aussi de l'envoi de troupes russes de l'OTAN, de troupes de l'OTAN au Groenland. Moscou l'aperçoit comme une avancée de l'Alliance. Et puis breveter sa voix pour ne pas être piraté par l'IA. À Hollywood, un comédien franchit le pas.
Après le journal, Étienne Lefebvre pour l'éditorial avec Les Échos, suivi de l'invité des Voix de l'économie. Aujourd'hui, François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir, qui nous parlera de Donald Trump, influenceur mondial numéro 1. Et à la une de ce journal, après la dermatose, une nouvelle maladie fait trembler les éleveurs.
La tuberculose bovine détectée dans plusieurs élevages dans l'Orne, c'est une maladie très ancienne qui touche tous les bovins, avec les conséquences que cela engendre, l'abattage sanitaire, l'arrêt temporaire des exploitations, la restriction sur la vente du lait. Cette maladie est moins visible que la dermatose, mais jugée préoccupante par les autorités sanitaires. Rémi Pfister.
La tuberculose bovine est une maladie bactérienne qui peut contaminer l'homme, notamment par le lait cru chez les animaux. Elle évolue lentement et passe souvent inaperçue, explique la vétérinaire Jeanne Brugère-Picou.
L'animal peut maigrir du fait de l'évolution chronique de cette maladie, mais quelquefois les troubles ne sont pas tellement visibles. Ça évolue très insidieusement. Généralement, on découvre la lésion à l'abattoir. Ce sont souvent des lésions pulmonaires ou digestives. Et quand on découvre une lésion à l'abattoir, il est vraisemblable qu'il y a d'autres animaux qui ont été contaminés.
Dans l'Orne, les contrôles se multiplient. Les vaches sont testées et en cas de suspicion, abattues. Mais sur le terrain, Christophe Davy, éleveur d'une quarantaine de vaches laitières, dénonce des tests jugés peu fiables et des abattages uniquement dictés par des impératifs économiques.
Moi, j'ai abattu 4-5 bêtes déjà sur la ferme, elles ne l'avaient pas. C'est bien pour vous montrer que les tests ne sont pas fiables. 95% des cas, à chaque fois, ils sont négatifs. En fait, les abattages, c'est juste pour que la France soit indemne de la tuberculose, parce qu'un pays qui n'est pas indemne de la tuberculose ne peut plus exporter. C'est absolument pas sanitaire. Quand on fait des abattages totaux, on détruit toute l'immunité d'un troupeau qui s'est construite de génération en génération. C'est là qu'est le scandale.
Pour l'instant, près de 1500 bovins sont concernés par des abattages. Mais la campagne de dépistage ne fait que commencer. D'autres foyers pourraient encore être découverts dans les semaines à venir.
Et puis des déchets déversés sur la chaussée à Lyon, l'accès au port de Dunkerque filtré, des opérations escargots en Meurthe-et-Moselle. La mobilisation des agriculteurs s'est poursuivie pour protester contre le Mercosur. Il sera signé demain au Paraguay. Et justement, en Amérique du Sud, qui va en profiter, qui va le subir? Quentin Mathieu est économiste au sein du think tank Agridé.
Le Paraguay et l'Uruguay ont quelques atouts à valoir sur le Mercosur, notamment comme le miel, mais il y a certaines filières également qui ont des craintes vis-à-vis d'accords. Je pense notamment à la filière vin en Argentine, qui jouit d'une position prédominante sur l'écosystème d'Amérique du Sud et qui pourrait effectivement voir la concurrence venir des entreprises européennes sur le secteur du vin. Donc cet accord, effectivement, il fait des gagnants et des potentiels perdants. Mais clairement, les gains aujourd'hui sont majoritairement concentrés sur l'économie du Brésil par rapport aux autres pays du Mercosur.
Dans le reste de l'actualité, les débats à l'Assemblée sur le budget annulés jusqu'à mardi, le gouvernement reconnaît que le projet ne pourra pas être adopté par un vote à l'Assemblée. Dès lors, ordonnance ou 49-3, le débat fait rage entre les partisans des deux méthodes pour faire adopter ce budget. Une étape importante du plan américain pour le territoire palestinien. Donald Trump déclare cette nuit que le Conseil de la paix pour Gaza a été formé. Le président américain ajoute que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés très prochainement.
Donald Trump défié par les Européens à propos du Groenland.
Oui, le territoire danois est au cœur des tensions internationales. Hier, les diplomaties françaises, suédoises, allemandes, finlandaises ont annoncé l'envoi de quelques soldats sur place pour faire face aux menaces de Donald Trump, oui, mais aussi aux menaces russes et chinoises. Côté russe, d'ailleurs, on se dit inquiet de ce déploiement de forces de l'OTAN. Et pour Cyril Brett, qui est chercheur à l'Institut Montaigne, il ne faut pas se tromper d'interlocuteur.
Les messages de la diplomatie allemande ne portent pas en réalité sur la Russie. Les messages de la diplomatie allemande s'adressent à l'administration Trump. L'administration Trump essaye de justifier sa pression sur le Groenland en accusant les Européens de ne pas savoir défendre ce territoire, le Groenland, contre les ambitions supposées de la Russie et de la Chine sur la région. Les menaces russes ne sont pas la principale préoccupation des alliés du Danemark dans cette opération.
La crainte des Iraniens à présent que le monde détourne à nouveau les yeux, les alliés du Golfe du régime sont intervenus auprès de Donald Trump pour le dissuader de toute attaque. Selon les sources, le bilan s'échelonne entre 2000 et 20 000 morts à travers le pays. Internet est coupé depuis une semaine, ce qui laisse le champ libre à la répression. Et puis en bref, depuis le 10 décembre en Australie, les moins de 16 ans sont interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux. Une première mondiale et un mois plus tard, quelques chiffres, les géants de la tech ont bloqué 4,7 millions de comptes après cette décision.
La technologie encore. À Hollywood, un acteur a breveté son visage et sa voix.
Pour se protéger face aux IA génératives qui utilisent l'image des acteurs sans leur consentement, c'est l'acteur américain Matthew McConaughey, tête d'affiche d'Interstellar par exemple ou de la série True Detective, qui souhaite se prémunir de toutes les utilisations malveillantes ou détournées. Nina Droff.
La voix que vous entendez, celle de Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street, est désormais une marque déposée, tout comme son visage, une façon d'empêcher leur utilisation par des IA génératives, sans autorisation ni rémunération. Un geste avant tout symbolique, selon Marie-Hélène Fabiani, avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle.
Quand on dépose une marque, c'est pas pour autant que les tiers ne vous copient pas. Mais effectivement, le jour où l'IA utilisera son image ou sa voix, ça donne un arsenal juridique plus important. Il aura une base juridique supplémentaire à faire valoir dans son courrier de mise en demeure ou dans son action s'il lance une action.
Ce dépôt de marque est une première dans le monde du cinéma qui pourrait faire des émules car l'intelligence artificielle générative est un vrai sujet d'inquiétude dans le milieu.
Que ce soit par des acteurs américains, les acteurs français, enfin tous les auteurs en général se posent des questions et essayent de voir comment muscler l'arsenal juridique contre l'IA parce qu'un acteur vit de son image et de sa voix. Donc si on lui vole et qu'on ne le rémunère pas, c'est un vrai problème.
Selon l'avocate, faire de son visage et de sa voix une marque est également possible en France. Une plainte pour usurpation d'identité peut même être déposée dans certains contextes.
Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Scarlett Johansson l'année dernière, une plainte contre une entreprise qui avait copié sa voix, David, pour une publicité.
Lénaïque, je vous laisse aller protéger votre voix, pourquoi pas la breveter. Et vous revenez à 8h pour un nouveau journal. À suivre, l'économie allemande retrouve des couleurs. C'est l'éditorial avec les Échos et Étienne Lefebvre sur Radio Classique. Il est 7h07.
Toyota. Toi aussi, franchis les obstacles de la ville. Actionne la boîte automatique et saute de trois rues. Coincé dans les bouchons ? Grâce à l'hybride, avance en casse bien-être. Prends-toi au jeu de la ville avec la Toyota Ego Cross.
100% hybride, 100% fun. Maintenant en hybride, la nouvelle Toyota Ego Cross est à partir de seulement 159€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota Ego Cross Dynamic LLD 37-30 000 km. Premier loyer 3990€ réservé aux particuliers pour toute commande jusqu'au 2 février dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Envie de confort ? Envie de choix ? Envie de grande marque ? Envie de... Topair.
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Neology, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies. 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr.
Renault. Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h09, l'éditorial de l'économie avec les Échos.
Avec Valtus, présent dans 28 pays, notre objectif, votre réussite.
Étienne Lefèvre, bonjour.
Bonjour David.
Après deux années de récession, l'économie allemande repasse enfin dans le vert, mais Achtung, ses perspectives de croissance restent modestes.
Oui, plus 0,2% l'an dernier, c'est maigre, mais l'Allemagne entrevoit enfin la lumière et espère remonter autour de 1% de croissance en 2026. Et cela grâce aux centaines de milliards d'investissements injectés par le gouvernement, en particulier pour ses armées. Mais ce qui est surtout notable, c'est la mobilisation de la classe politique pour rénover un modèle économique plombé par la nouvelle ère géopolitique. Fini l'arrogance, la guerre commerciale et la crise du gaz russe ont sapé les certitudes outre-Rhin. Mais le pragmatisme est toujours de mise, même si le recours à l'endettement continue de faire débat. Les effets du bazooka budgétaire prendront du temps et ne régleront pas toutes les faiblesses allemandes, loin de là. Il faudra des réformes, pas seulement de l'argent public.
Mais au moins la classe politique en a bien conscience, ce qui n'est pas forcément le cas de ce côté-ci du Rhin. Suivez votre regard.
Oui, la France, c'est un peu le miroir inversé. L'économie continue de surprendre, avec une fin d'année plus dynamique qu'attendue, malgré le brouillard fiscal qui pénalise des entreprises plus qu'agacées par le feuilleton budgétaire. L'économie française est moins dépendante de l'export, elle bénéficie d'une énergie décarbonée bon marché et tire encore un peu les fruits des réformes du premier quinquennat Macron. Mais l'impasse politique actuelle s'aborde son avenir en laissant filer une dette qui asphyxie peu à peu l'économie et entrave les investissements d'avenir. Alors, Matignon promet de trancher avant mardi entre 49.3 et ordonnance pour faire enfin passer le budget. Tant mieux, il est temps de siffler la fin de la récréation. Même si on le sait, rien ne sera réglé avec ce budget et l'union sacrée à l'allemande restera malheureusement une chimère.
L'éditorial de l'économie avec Étienne Lefèvre et avec Les Échos. Notez qu'à la une du Parisien en titre 2000 patrons en colère et que le Groenland fait la une du Monde, de l'Opinion et du Figaro. On aura l'occasion d'en reparler, notamment dans la revue de presse. Radio Classique, il est 7h11. À suivre, les voix de l'économie. Donald Trump, premier influenceur des marchés mondiaux. On en parle avec l'invité de Stéphane Pedrazzi.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Stéphane, votre invité, c'est François Meunier.
Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
Directeur de la rédaction du magazine Investir, bonjour François.
Bonjour Stéphane.
Ravi de vous retrouver, thème un peu provocateur ce matin. Effectivement, Donald Trump est devenu l'influenceur financier numéro un pour les marchés financiers donc.
Oui absolument, parce que la baisse de 12% du dollar par rapport à l'euro en 2025, eh bien c'est lui, l'envolée de 65% de l'once d'or, c'est encore lui. Des taux d'intérêt élevés à 10 ans aux États-Unis, c'est en partie à cause de Donald Trump. La guerre commerciale, la déstabilisation des entreprises exportatrices, toujours lui. La spectaculaire flambée des cours de bourse, des valeurs de défense en Europe, c'est bien sûr lié à Donald Trump. Et l'adoption, enfin, de la crypto-monnaie par l'establishment, c'est toujours le président des États-Unis.
Et il a même son propre réseau social pour justement faire part de ses remarques ou de ses décisions. Alors on va commencer par l'influence la plus visible de Donald Trump, c'est la flambée des valeurs de la défense, notamment sur les marchés européens.
Oui, les valeurs de défense ont flambé en 2025. On a eu des hausses spectaculaires de plus de 70% en moyenne dans la défense, avec des pics pour le fabricant de munitions allemand Rheinmetall qui s'est envolé de 154%. On a eu en France le spécialiste des drones marins Excel Technologies, qui est coté à la Bourse de Paris, qui a gagné 370%. Le fabricant de vision nocturne de lunettes pour les armées, Exosens, s'est envolé de 150%. Thales, Dassault Aviation ont fortement progressé. En Europe, le plus grand vendeur de matériel militaire en matière de chiffre d'affaires, BAE Systems, a gagné 50%. Tout s'envole parce que Donald Trump a laissé, avec ses multiples déclarations, a fait comprendre à l'Europe qu'elle pouvait plus vraiment compter sur le soutien militaire américain. On a une Allemagne qui se réarme. Son budget, faut voir le budget de la défense de l'Allemagne, c'était 47 milliards en 2021. Ça va doubler cette année. Ils vont dépasser les 101 milliards. Et en 2030, il est prévu 180 milliards. Donc on voit que l'Allemagne se réarme rapidement. L'ensemble des pays de l'OTAN se réarme. On était sur une dépense d'à peu près de 2% du PIB des membres de l'OTAN en 2024-2025. Ce sera 3,5% de dépenses allouées à des dépenses militaires en 2035. Donc on voit que la tendance est extrêmement forte. Et bien sûr, ça a des conséquences qui sont significatives en cours de bourse, parce qu'on a une industrie qui a un carnet de commandes qui explose. Et donc on a une croissance garantie, une croissance rentable pour au moins une décennie.
La flambée des valeurs de la défense, c'est la partie la plus visible. La partie la plus technique, moins visible du grand public, mais qui est très importante pour le financement des États, c'est la hausse des taux sur le marché obligataire.
Oui, Donald Trump n'influence pas uniquement Wall Street, uniquement les marchés actions. Il a une énorme influence sur les marchés monétaires et obligataires. D'abord, il faut voir que Donald Trump a une obsession, c'est la baisse des taux de la Banque centrale américaine. Lui, il fait l'équation suivante, qu'il faut absolument que les taux soient les plus bas possibles pour stimuler la croissance économique et donner du pouvoir d'achat aux Américains. Sauf que l'institution, la Fed, la Banque centrale américaine, doit aussi regarder la croissance économique, l'emploi, mais aussi le niveau d'inflation. Et donc, elle ne peut pas baisser les taux trop rapidement au risque de provoquer un choc inflationniste. Mais Donald Trump, c'est pas vraiment sa préoccupation pour l'instant, l'inflation. Et donc, il fait pression sur le patron de la Fed. Il va jusqu'à l'insulter. Il dit qu'il est trop stupide, qu'il est trop mauvais pour comprendre la situation économique américaine. Il l'a accusé de corruption, et en tout cas d'avoir menti sur le montant de la rénovation du bâtiment du siège de la Fed. Il a accusé aussi de fraude un membre du conseil des gouverneurs, Lisa Cook, qui pour l'instant est suspendu, et dans quelques jours, il va probablement annoncer un nouveau patron de la Fed pour remplacer Jerome Powell. Donc il fait pression fortement, mais cette pression, elle est mal perçue par les investisseurs. Parce que les investisseurs se disent que si vraiment l'institution qui a la confiance des marchés fait un petit peu n'importe quoi, eh bien ça va déstabiliser le système économique, on va avoir une baisse du dollar, on aura moins d'acheteurs de dollars, et là c'est ce qu'on a vu l'année dernière, et c'est ce qui pourrait se poursuivre cette année, une baisse du dollar. Si l'institution n'est pas crédible, on va avoir des taux plus élevés, les investisseurs vont rechigner à acheter de la dette américaine, et si la dette américaine, pour séduire des investisseurs, il va falloir que les taux augmentent, il va falloir proposer un rendement plus élevé. Et si vous proposez un rendement plus élevé aux États-Unis, eh bien, ça aura des répercussions, même aussi en France, pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier, parce qu'il y a une compétition. Tous les États essaient de vendre à tout le monde la dette. Et pour attirer des investisseurs, il faut des rendements élevés. Et donc, finalement, cette influence, elle est sur le monétaire, sur le dollar, elle est sur les taux d'intérêt, mais elle est aussi sur l'or. Parce que si on a des banquiers centraux ou des investisseurs qui veulent acheter moins de dollars, eh bien, il faut qu'ils placent leurs économies. Et la valeur refuge par excellence, c'est l'or. Et ça explique une bonne partie de la hausse de l'or, notamment des banques centrales des pays dites du Sud, qui achètent massivement de l'or. Et on sait que l'or a gagné 65% l'an dernier et que la tendance reste positive. Et il n'est pas exclu, en tout cas c'est mon pronostic, que l'once d'or franchisse les 5000 dollars prochainement.
On critique beaucoup Donald Trump, évidemment, en Europe, mais vous dites, attention, indirectement, il soutient aussi notre croissance.
Oui, il a aussi une influence sur la croissance économique. Il a contraint l'Allemagne à se réveiller. L'Allemagne, il faut voir que, historiquement, l'Allemagne, c'était un rythme de croissance de son PIB de l'ordre de 1,9% par an. Mais depuis 5 ans, l'Allemagne est à l'arrêt. Il y a une stagnation, voire il y a même quelques trimestres de récession. Et là, le fait que les États-Unis sont en train de prendre un petit peu de recul, de plus forcément garantir la sécurité militaire des Européens et donc de l'Allemagne, ça a obligé l'Allemagne à se réveiller, à sortir un énorme bazooka budgétaire. Ils vont mettre sur la table près de 1000 milliards d'euros. Donc c'est des montants conséquents. Et ça pourrait réveiller la croissance économique de la première puissance économique de la zone euro et bien sûr ses partenaires privilégiés, dont la France. Donc normalement, toute la zone euro tous les pays de la zone euro vont bénéficier d'un sursaut de croissance allemand.
Il y a un sujet sur lequel Donald Trump n'était pas forcément attendu, c'est celui des crypto-monnaies. Ça n'était vraiment pas sa tasse de thé au départ. Il a nommé un nouveau patron à la tête de la SEC, c'est le gendarme de la bourse américaine, et ça soutient les crypto-monnaies. Pour quelle raison?
Oui, parce que on avait un gendarme de Wall Street qui était plutôt historiquement hostile aux crypto-monnaies en disant attention, on a du mal à tracer les acheteurs, donc ça peut être lié au blanchiment d'argent sale, et finalement Trump s'est pris de passion pour les crypto-monnaies et il a nommé Paul Atkins à la tête du gendarme de la bourse, quelqu'un qui va favoriser, qui va imposer moins de régulation. Ça, c'est la première action de Donald Trump. La deuxième action, c'est qu'il a demandé à ce que les États-Unis se dotent d'une réserve obligatoire de crypto-monnaies. Et aujourd'hui, les États-Unis possèdent plus de 328 000 bitcoins et plus d'autres crypto-monnaies. Et donc, ça légitime auprès de l'establishment l'utilisation de cet actif qui était un petit peu particulier et qui, tout doucement, devient un actif comme les autres.
Merci beaucoup François Monnier pour approfondir ce sujet. Le 2715e numéro d'Investir sera dans les kiosques ce samedi et il sera consacré aux conséquences de la politique de Donald Trump.
Merci à tous les deux et bon week-end. On retrouve Stéphane, ses invités et les chroniques dès lundi matin 6h pour la matinale de l'économie. À suivre Karine Dijoux et Si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, il y sera question de la cuisine budgétaire avec Sébastien Lecornu qui compare le budget à un rôti de porc au pruneau à faire longuement mijoté, 7h20 Radio Classique.
Oh, la reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6 000 € d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1 000 € de prime reprise déduite et 5 000 € de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pensez à covoiturer.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non ? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon ?
Ah bah des lasagnes ! C'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait ! On passe par le marché d'abord, et ensuite, on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour bénéficier de nos services, rendez-vous sur o2.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Ces mots de marque qu'on emploie au quotidien, c'est vrai que les marques sont partout, mais souvent dans le vocabulaire.
Oui, vous savez, il s'agit d'antonomase. Je vous ai déjà donné le nom de personnages célèbres qui deviennent des noms communs, poubelle, silhouette, etc. Mais intéressons-nous aujourd'hui aux noms de marque. D'ailleurs, observons ensemble un phénomène de langage surprenant. On dit souvent « mon Dyson » au lieu de « mon aspirateur » ou « mon iPhone » au lieu de « mon téléphone ». Vous noterez qu'en revanche, on ne dit pas « mon Roventa » ou « mon Huawei ». Il y a quelque chose à analyser là-dessus.
Alors, vous commencez par un incontournable, le frigidaire, plus communément appelé frigo. C'est un grand classique.
Oui, le mot initial est « réfrigérateur », mais la marque frigidaire a eu tellement de succès dans les années 1950 qu'elle a pris le dessus. Le mot frigo, quant à lui, est l'abréviation de la marque frigidaire. Ainsi, aujourd'hui, on entend bien plus rarement « peux-tu déposer ce plat dans le réfrigérateur ?» C'est pourtant un mot clair, mais plus long à prononcer.
Il y a le diminutif de frigidaire, c'est frigo aussi. Oui. Alors, c'est la même chose pour le scotch.
On parle tous d'un rouleau de scotch au lieu d'un ruban adhésif, mais scotch est un nom de marque dont l'origine est savoureuse. Transportons-nous aux États-Unis dans les années 1920. Il était à la mode de peindre les voitures avec deux couleurs, mais il était difficile d'obtenir une démarcation nette. Richard Roux, un jeune assistant de la marque 3M, qui produisait du papier de verre, eut l'idée d'inventer un ruban adhésif large de 5 cm, collant sur les bords mais pas au milieu. Alors qu'on testait le produit, un peintre aurait déclaré « Rapportez ce ruban à vos patrons radins et dites-leur de mettre davantage d'adhésif dessus ». Et le mot anglais, pour désigner ces patrons radins, était « scotch », dans le sens d'écossais, car ils avaient la réputation d'être économes. Le terme resta et désigna l'invention de Richard Roux.
Donc le scotch viendrait de la radinerie supposée de nos amis écossais. Et les amis écossais, on peut le dire, puisque les écossais aiment beaucoup la France, c'est historique. Dans le registre collant, on parle de la pâte à fixe. Mais quel est le terme exact ?
Vous connaissez la pâte à fixe, bien pratique pour décorer la chambre des enfants ou les salles de classe sans abîmer la peinture. J'en ai d'ailleurs employé pour afficher des mots fléchés géants dans ma salle et une élève était étonnée que je n'emploie pas le terme pâte à fixe. De mon côté, je dis gomme fixe, mais le nom véritable est pâte adhésive repositionnable.
Wow.
C'est un peu long, je le concède. Allez, je vous lance un défi. Aujourd'hui, remplacez les noms de marque par leur équivalent.
Qu'est-ce qu'on dirait à la place du Tipex ?
Correcteur.
Correcteur, ou du blanc, on met
voilà.
Du blanc.
Hein. Exactement.
Je vous dis à lundi, ma chère Karine.
À lundi.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 euros par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pensez à covoiturer.
Radio Classique.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Dans un instant, les coulisses de la politique, Sébastien Lecornu va prendre encore plus de temps pour finaliser son budget.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant ? DS Automobile présente DS3 DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 355 euros par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Marcelo Besfred pour les coulisses de la politique. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
L'exécutif promettait un budget pour la fin janvier au plus tard. Or, vous avez appris hier, dans des indiscrétions recueillies par Le Parisien aujourd'hui en France, qu'il faudra attendre sans doute la mi-février. Mais pourquoi tant de temps ?
Ah oui, bonne question. Sébastien Lecornu l'a dit devant les siens, je ne veux pas bâcler, faire n'importe quoi. Et il ajoute même, David, cette métaphore culinaire, je vous la livre, on va bien ficeler le rôti, on va travailler la farce tous ensemble, et une fois que le rôti sera au four, on ne va pas rouvrir pour rajouter le pruneau. Alors, ça appelle une traduction, je vous dis tout, je vous l'explique, les négociations en coulisses, notamment avec le Parti Socialiste, sont très difficiles, et je rappelle que l'objectif en ce moment n'est pas que le budget soit voté par les députés, ça personne n'y croit plus, mais c'est la subtilité que le PS et la droite ne se joignent pas à une motion de censure, c'est bien cela, ficeler le rôti, prendre le temps de trouver un compromis pour qu'il y ait un budget et au passage que le gouvernement sauve sa peau. Alors le Premier ministre, il tranchera d'ici à mardi sur la façon de faire passer le budget en force, soit par le fameux 49.3, soit ce serait inédit par des ordonnances.
Mais alors là, vous ne m'expliquez pas pourquoi ça n'arrivera pas fin janvier. D'où vient le retard, puisque vous parlez de la date de mi-février?
Alors rentrons dans les détails, vous avez raison. Parce qu'il n'y a pas en fait un 49.3, mais il faudrait 3 49.3 à dégainer. Un pour les recettes, un pour les dépenses et un pour ce qu'on appelle la lecture définitive. Ajoutez à cela qu'après chaque 49.3, il y aura une motion de censure discutée à l'Assemblée. Et si ce sont les ordonnances, alors il faudra un projet de loi de finances rectificative. Bref, on repart pour un tour. Et dans les couloirs de Matignon, on a fait les calculs. Rien ne sera voté définitivement avant la première quinzaine de février.
Et Emmanuel Macron est-il en phase avec ce calendrier ?
Pas vraiment. Le président voulait tourner vite fait la page du budget. Il l'a encore redit ce mercredi en Conseil des ministres. Mais voilà, Sébastien Lecornu, c'est lui qui est dans l'opérationnel et il ne veut pas précipiter les choses. Et tant pis si l'Élysée presse. Alors, ce n'est pas encore une tension entre eux, mais c'est déjà une première incompréhension entre ces deux hommes qu'on disait alignés sur absolument tout.
Marcelo Besfred du Parisien aujourd'hui en France pour les coulisses de la politique. À lundi, Marcelo, vous qui évoquiez le rôti au pruneau du Premier ministre, notez qu'à 8h15, je recevrai Gauthier Battistella, ancien patron éditorial du Guide Michelin, pour sa biographie romanesque de Paul Bocuse, le chef des chefs Radio Classique. Il est 7h29, tout de suite le temps, puis le journal de Charles Bonner. Charles, bonjour.
Bonjour David.
Après le temps qu'il faut, le temps qu'il fait, des nuages et de la douceur.
Des nuages ultra majoritaires aujourd'hui qui donnent des pluies assez marquées sur les Cévennes. Cet après-midi, la Manche retrouve des éclaircies. Les températures 10 à Lille, 12 à Strasbourg et 11 à Bordeaux.
Les entreprises engagées en action avec Delville Management, cabinet de management de transition, Fabrice Lundy.
Mélissa Saint-Fort est la directrice RSE du groupe TF1, leader français de l'audiovisuel avec des chaînes telles que La Une, bien sûr, LCI, TMC, Ushuaïa TV, mais aussi des studios de production. Mélissa Saint-Fort.
Ce dont je suis fière, c'est d'avoir mis en place une stratégie d'éco-production. Donc, c'est le fait de produire nos programmes audiovisuels de manière plus responsable. On a par exemple éco-produit la Danse avec les Stars l'année dernière. Notre saison a fait 26% de CO2 en moins par rapport à la saison précédente, en agissant sur les groupes électrogènes qu'on a utilisés avec de l'huile de friture recyclée plutôt que du diesel. Les décors sont recyclés, réutilisés, les costumes également. On a agi aussi sur la cantine des artistes avec moins de viande rouge, les transports, ils ont covoituré en voiture électrique. On n'avait que de la LED sur le plateau, le public n'avait plus de bouteilles d'eau en plastique et cette année, on a de nouveau réduit de 12% le bilan carbone de l'émission.
L'engagement de Mélissa Saint-Fort du groupe TF1.
Delville Management, cabinet engagé de management de transition, vous accompagne dans les enjeux stratégiques de vos transformations. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin l'éternelle discussion sur la Nouvelle-Calédonie. Pour sortir de l'impasse, une réunion se tient à l'Élysée aujourd'hui. Sur le budget, le Parlement ne votera pas. Le gouvernement réfléchit à utiliser le 49-3 ou les ordonnances. Et puis le poisson, victime de l'inflation, le secteur du sushi est englué dans une crise sans précédent.
Après ça, l'écho du monde, la phase 2 du plan américain pour Gaza expliqué par Christian Macarian, suivi du journal imprévisible consacré à Figaro, le journal qui porte son nom à 200 ans, mais Figaro, au juste, qui était-il ? Les forces politiques de Nouvelle-Calédonie sont réunies à l'Élysée aujourd'hui.
Tous sauf une, le FLNKS, principale force d'indépendantistes qui a refusé de venir, mais qui pourrait finalement participer par visioconférence. Un caillou dans la roue, mais pas de quoi décourager le président qui espère toujours faire aboutir l'accord de Bougival signé cet été, Victor Faure.
En juillet dernier, après 3 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'accord de Bougival donnait une esquisse de l'avenir institutionnel du territoire. Accord rejeté au mois d'août par le FLNKS. Mais l'Élysée ne veut pas fermer la porte à double tour et ambitionne d'arriver lundi à un document complémentaire pour des explications et des éclaircissements, relate un conseiller d'Emmanuel Macron. Pas de passage en force, pas de paralysie non plus, fait savoir le palais. L'exécutif se montre confiant, mais marche toutefois sur des œufs. L'Élysée ne parle même plus de l'accord de Bougival, mais de l'accord du 12 juillet et affirme que le texte pourrait peut-être changer de nom. Dans ce contexte, cette réunion doit servir aussi à aborder la question de l'économie de la Nouvelle-Calédonie, fortement secouée depuis les émeutes de 2024. L'Élysée veut poursuivre, coûte que coûte, le dialogue.
Là aussi, c'est l'impasse sur le budget. Faute de majorité à l'Assemblée, le gouvernement jette l'éponge et renonce à le soumettre au vote. Reste donc deux solutions, le 49-3 ou les ordonnances. Aucune bonne solution, reconnaît Laurent Panifousse. C'est le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Malgré la volonté constante du gouvernement de créer les conditions d'un vote, nous constatons que ce vote ne pourra pas avoir lieu. Le Premier ministre fera donc des propositions dès demain pour permettre une promulgation d'un budget. En conséquence, les journées de demain, mais aussi lundi soir, qui étaient initialement dédiées aux travaux sur ce même budget, ne seront donc pas ouvertes. Je vous remercie.
Et faute de discussion donc aujourd'hui et lundi, le Parti Socialiste va faire également des propositions dans la journée. Des concessions aux médecins. Après leur grève, le gouvernement annonce ce matin une série de mesures, notamment l'abandon d'objectifs obligatoires de réduction de prescriptions. Des renforts au Groenland lors de ses vœux aux armées. Emmanuel Macron évoque des moyens terrestres, aériens et maritimes envoyés ces prochains jours pour cette mission décidée, selon l'Allemagne, par la menace russe et chinoise, mais sans citer les velléités d'annexion de Donald Trump.
Donald Trump, justement, qui a menacé cette semaine l'Iran avant de se rétracter.
Il promettait de l'aide, laissait entendre que son armée allait intervenir, c'était mardi soir, avant de reculer, dès le lendemain, estimant cette fois-ci que les tueries étaient finies, une volte-face surprenante, Sarwan de Pastre.
Tout semblait prêt pour une intervention. Mardi, le département d'État demande aux ressortissants américains de quitter immédiatement l'Iran. Dans le même temps, la base militaire américaine d'Al Udeid au Qatar, visée par des missiles iraniens en juin dernier, est sommée d'évacuer. Et pourtant...
Il y a des hésitations de la part du président américain.
David Rigoulet-Rose est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
Il sait que c'est pas la même situation que le Venezuela. Et il y a eu un débat très soutenu au niveau du Conseil de sécurité nationale, avec deux lignes divergentes. J.D. Vance, qui était partisan de l'option non militaire, la négociation, et puis la position plus martiale de Marco Rubio.
Des dissensions internes et des mises en garde, notamment de la part de l'Arabie Saoudite, du Qatar et d'Oman.
Ils lui ont fait valoir qu'il y avait un risque de réplique incontrôlée et incontrôlable au niveau régional. Et il y a évidemment le passif de la guerre en Irak en 2003, qui avait coûté très cher dans tous les sens du terme aux Américains.
Selon le chercheur, l'intervention militaire des États-Unis n'est pas annulée, seulement suspendue. Des négociations ont lieu en ce moment. Les prochains jours seront donc déterminants pour fixer les perspectives de sortie de crise.
Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est lui aussi opposé à une intervention auprès de Donald Trump. Le président américain qui a reçu hier la médaille du prix Nobel de la paix offerte par la dernière lauréate, l'opposante vénézuélienne Maria Machado, venue déjeuner à la Maison Blanche et soutenir l'intervention américaine, même si Donald Trump l'a écarté pour diriger le Venezuela.
Radio Classique 7h35, la cuisine japonaise est en souffrance.
Les ventes de sushis ont baissé de 30% en 2 ans. Pourtant, c'était à la mode il y a quelques années, mais il y a eu d'abord l'inflation et désormais les fast-food qui leur ont fait une queue de poisson. C'est le reportage de Lucie Dupressoir.
Dans le centre de Paris, le chiffre d'affaires du restaurant Sushida a baissé de presque 40% l'année dernière. Ying Ying Shu, la patronne depuis 2009, ne voit plus ses habitués, des salariés des bureaux voisins qui venaient déjeuner.
Ils mangent beaucoup moins qu'avant. Par exemple, avant, c'est une fois par semaine et maintenant, c'est une fois par mois.
Et c'est la première fois qu'il y a une baisse de clientèle comme ça ?
Oui, bien sûr. C'est un grand choc.
Le rapport qualité-prix de la restauration japonaise n'est plus à la hauteur, explique ces anciens amateurs de sushis rencontrés dans le quartier. 35 euros le panier moyen de sushis contre 15 euros pour une pizza.
Le prix des sushis, je trouve, a quand même considérablement augmenté. En dessous de 15 euros, on n'avait pas grand-chose à manger en termes de sushis.
C'est cher et de l'autre côté, c'est pas partout qu'on trouve une bonne fraîcheur vu que c'est du poisson cru. J'ai déjà eu malheureusement une intoxication alimentaire, donc j'en mange plus.
Il y a aussi l'essor d'autres restaurations asiatiques. Bernard Boutboul, président de Jira Conseil, expert en restauration.
Notamment la cuisine coréenne, thaï et la cuisine vietnamienne qui sont savoureuses, plus saines, nettement moins chères. Ces trois cuisines-là prennent évidemment des parts de marché au repas sushi.
Les leaders Planète Sushi et Sushi Shop ont dû fermer ou céder certains de leurs restaurants ces 2 dernières années.
Le reportage de Lucie Dupressoir.
Et on reparlera de cuisine et de gastronomie à 8h15, mon cher Charles. Je sais que vous êtes amateur de saucisses, mais nous recevrons le biographe de Paul Bocuse, Gauthier Battistella, ancien responsable éditorial du Guide Michelin. Il publie une biographie monumentale du chef des chefs Paul Bocuse. Pour l'heure, le chef des chefs de la diplomatie et de la géopolitique à Radio Classique, c'est Christian Macarian. Il est avec nous dans un instant. Radio Classique, 7h37.
Peugeot. Impossible de résister aux leaders de l'hybride. Jusqu'au 31 janvier, pendant les irrésistibles Peugeot, craquez pour la 208 hybride dès 169 euros par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous en point de vente ou sur Peugeot.fr. Portes ouvertes du 15 au 19 janvier.
Source 3A au 30 novembre 2025. LLD 49 mois 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500 euros. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Samedi prochain, retrouvez la chronique Bleu comme le monde avec Caroline Forge.
Cette semaine, je vous propose de découvrir une innovation technologique qui, grâce à l'IA, détecte les fuites sur les réseaux d'eau.
Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 euros par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Classique.
Lexus.
On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle.
Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 299 € par mois, entretien inclus. Lexus LBX, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 €. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La phase 2 du plan de paix pour Gaza, Christian Macarian vous en parle dans un instant.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corsa avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 € et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5 000 € déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. Yes égale oui. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Christian Macarian à 7h40 pour l'écho du monde. Bonjour Christian.
Bonjour David.
À Gaza, Steve Witkoff a annoncé le début de la phase 2 du plan américain visant à mettre fin à la guerre. C'était mercredi. Plan dont l'objectif est de désarmer le Hamas et d'installer une administration transitoire. Alors qu'est-ce que cette deuxième phase recouvre concrètement ?
Alors concrètement, et si tout se passe comme prévu, on va mettre en place un comité national pour l'administration de Gaza qui va entamer la démilitarisation complète et la reconstruction de Gaza, principalement aussi le désarmement de tout le personnel non autorisé. Et bien sûr, les États-Unis attendent du Hamas qu'il respecte strictement ses obligations, y compris le retour immédiat du dernier otage israélien décédé qui est toujours aux mains du Hamas.
J'ai oublié de vous poser la question, mais est-ce qu'on tire encore à Gaza? Est-ce qu'il y a encore des combats? Parce que j'imagine que la fin de la phase 1 était conditionnée par l'arrêt des combats.
Il y a des tirs, il y en a eu, et il y a même eu des victimes, malheureusement. Donc, il y a des heurts, mais qui sont sporadiques. Le bilan est hélas toujours à déplorer. Mais franchement, la phase 2 du plan Trump est plutôt marquée par l'observation globale de la phase 1. Donc on peut parler d'une avancée, ou en tout cas d'un processus qui avance. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce comité national pour l'administration de Gaza va se charger des questions tout à fait quotidiennes et vitales. Pour les 2,3 millions de Gazaouis, la distribution de l'eau, l'électricité, les finances, la santé, l'éducation, la justice, la distribution de l'aide humanitaire, tout ce qui manque et tout ce qui a manqué. Et cet organisme a un président, ils l'ont trouvé, il s'appelle Ali Shaat, c'est un Palestinien, un ingénieur, ancien vice-ministre des transports de l'autorité palestinienne qui était présidé toujours par Mahmoud Abbas. Ce Ali Shaat a l'aval de tous les parrains de la région qui soutiennent cette initiative, à savoir l'Égypte, le Qatar et la Turquie.
On parle plus de Tony Blair, parce qu'il avait été question de Tony Blair pour présider cette autorité de transition.
Oui, il a été écarté. Il a été écarté parce qu'il a soulevé beaucoup d'objections.
Bah, il vaut mieux faire peut-être, je dis bien, avec des locaux. Alors, le Fatah, le djihad islamiste et même le Hamas ont déclaré, je cite, soutenir les efforts des médiateurs pour la formation du comité national palestinien transitoire. Mais la grande question, c'est, le Hamas va-t-il accepter d'être désarmé?
Oui, c'est la grande question. Il y a des engagements formels de la part de plusieurs responsables du Hamas. Il y a des menaces proférées clairement par Israël. Mais est-ce que tout ça va tenir? C'est la question. Un porte-parole officiel du Hamas, qui s'appelle Hazem Kassem, s'est dit prêt à abandonner toutes les prérogatives du mouvement et à leur transfert au comité des technocrates, dont on vient de parler, tout en se déclarant prêt à faciliter son travail. Mais il n'est pas question pour autant, le Hamas joue sur les mots, d'aboutir ou de consentir à un désarmement total. Or, pour Israël, c'est une condition essentiel. Je rappelle que Benjamin Netanyahou a trois conditions. D'abord, la restitution de la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage israélien détenu par le Hamas, mais aussi le désarmement, donc, du Hamas et la démilitarisation complète de la bande de Gaza. C'est uniquement si ces conditions sont respectées qu'Israël ira plus loin.
Alors, est-ce qu'Israël s'engage à quelque chose de son côté ?
Oui, Israël devrait se retirer des 53% de la superficie de la bande de Gaza qu'il occupe actuellement. Et puis, des travaux de reconstruction dans cette région devraient avoir lieu, mais il faut encore trouver des financements internationaux préalablement au lancement de ces travaux.
C'est pas encore la French Riviera, hein, on
non,
est loin
pas
du,
tout à
du
fait.
Compte.
Et puis enfin, il est prévu qu'une force multinationale de stabilisation composée de soldats de plusieurs pays, se déploie dans la bande de Gaza, ce qui serait l'étape ultime. Eh bien, on n'en est pas encore là, parce que, par exemple, un pays comme la Turquie, qui est volontaire pour envoyer des soldats dans cette force multinationale, est refusé par Israël.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Vous retrouvez toutes les chroniques de Christian sur l'application Radio Classique que vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger, plus 24% d'utilisation en un an sur l'application Radio Classique. À suivre Le Figaro qui fête son bicentenaire. Mais au fait, qui était Figaro ? Petit rappel dans un instant avec Augustin Lefebvre et le journal imprévisible Radio Classique. Il est 7h45.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement, à partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voire Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
En juin 2026, Mezzo vous emmène naviguer sur le Danube avec Rivage du Monde. Concerts intimistes, visites culturelles, échanges privilégiés. Vivez le charme des capitales impériales avec le Quatuor Zaïd et le journaliste musicien Antoine Pecker pour une croisière unique où la musique guide chaque instant. Réservez sur rivagedumonde.fr/mezzo.
Oh, la reprise. Reprise du sport. Pourquoi j'ai fait ça, moi ?
Toutes les reprises ne se ressemblent pas. Chez Ford, profitez de jusqu'à 6000 euros d'avantage client sur toute la gamme hybride et électrique. Le mois de la reprise Ford, c'est en janvier seulement.
Pareil pour moi. Courir, c'est en janvier seulement.
Portes ouvertes ce week-end.
Ford. Remise recommandée sur prix maximum. Exemple Puma hybride, 1000 euros de prime reprise déduite et 5000 euros de remise. Offre à particulier, stock disponible jusqu'au 31 janvier dans le réseau Ford participant. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Radio Classique.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offerts.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offerts. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Augustin Lefebvre, par ici et par là. Bonjour Augustin.
Bonjour David, bonjour à tous.
Pour le journal imprévisible à 7h47, Le Figaro célèbre en cette fin de semaine ses 200 ans et cela vous a donné envie de revenir à celui qui a donné son nom à ce journal.
Figaro, 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 Figaro.
Figaro, valet espagnol insolent qui n'a pas sa langue dans sa poche, devenu symbole. Extrait d'une conférence donnée lors des festivités de ce bicentenaire avec l'historienne Claire Blandin.
Le personnage de Figaro est choisi par les fondateurs du journal, en écho bien sûr à la pièce de Beaumarchais, pour dire en 1826, sous la Restauration, on est revenu à la situation d'avant la Révolution française, on est comme sous l'Ancien Régime, il faut défendre la liberté d'expression.
Tout commence en 1775 avec Le Barbier de Séville, signé Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Écrivain, musicien, mais aussi horloger, agent secret et marchand d'armes, selon Jean Piat, qui a incarné une centaine de fois le personnage, Beaumarchais se serait inspiré de son propre nom.
Alors Beaumarchais s'appelait Caron.
Oui, il s'appelait Caron. Oui.
Son père s'appelait
Caron. De Monsieur Caron, horloger.
Et on dit que le Figaro, non, Figaro est le fils Caron. Une contraction de fils Caron, une déformation de fils Caron. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, je trouve que l'anecdote vaut la peine d'être contée.
Finalement, Beaumarchais peut dire Figaro, c'est moi.
Oh oui, certainement, c'est Figaro, c'est lui. Il y a une identité extraordinaire entre Beaumarchais et Figaro. D'ailleurs, dans le monologue du mariage, Figaro raconte sa vie comme Beaumarchais lui-même pourrait le faire.
Ce monologue, c'est celui qui est tiré de la deuxième pièce à mettre en scène Figaro, le mariage de Figaro, ou la lutte d'un domestique contre un noble qui veut rétablir le droit de cuissage envers sa fiancée. Extrait d'une mise en scène à la Comédie-Française, Alain Pralon et Figaro.
Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Et qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître. Et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes.
Et c'est également dans ce monologue qu'on entend la phrase qui deviendra la devise du Figaro, celle qui provoque la fureur de Louis XVI, reconstitution dans le film Beaumarchais l'insolent.
Veuillez, madame, relire cette réplique.
Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.
Assez, je vous en prie. La borde.
Sire.
Remettrez ceci à l'officier de garde.
La liberté de Figaro se verra donc censurée, écrite en 1778. La pièce ne sera jouée en public que 6 ans après, en 1784. 5 ans donc avant 1789. Et ce n'est pas un hasard si la Comédie Française avait choisi cette pièce au moment d'un autre bicentenaire, en 1989. Antoine Vitesse, metteur en scène.
Plus que la liberté, plus que la fraternité, le mariage de Figaro est fondé sur l'égalité. Sur le fait qu'il n'y a pas de naissance.
C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il préfigurait les droits de l'homme.
Ah, ça, tout à fait. C'est ça qui est révolutionnaire dans cette œuvre. C'est révolutionnaire en jouant, révolutionnaire en s'amusant. Mais c'est profondément révolutionnaire.
C'est vol ballare, signor Contino. C'est vol ballare, signor Contino. Il chitarrino le suonerà.
Si vous voulez danser, mon petit comte, je vous jouerai de la petite guitare. On l'entend depuis le début de cette chronique, Figaro est aussi chanteur et ses aventures inspirent les compositeurs. Le mariage de Figaro devient les noces chez Mozart, première collaboration avec le librettiste Da Ponte. Et il a fallu convaincre l'empereur Joseph II qui avait interdit la pièce de Beaumarchais, scène imaginée dans le film Amadeus.
Figaro est une mauvaise pièce. Elle attise perfidement la haine des classes. En France, elle n'a créé, j'ai ouï dire, que déplorable rancœur. Ma très chère sœur Antoinette m'a récemment écrit qu'elle commençait à avoir peur de son propre peuple.
Sire, je vous le jure, il n'y a rien de la sorte chez moi. J'en ai retiré tout ce qui aurait pu offenser. Je déteste la politique.
Alors, ce qu'on entend là, c'est un extrait du Barbier de Séville. Les amateurs de Rossini s'interrogent peut-être, se demandent à quel moment de l'opéra on entend cette sérénade du comte. Eh bien, il faut dire que ce n'est pas du Rossini, mais du Paisiello. La première adaptation de Beaumarchais à avoir connu le succès, avant de tomber complètement dans l'oubli et d'être remplacée par la version de Rossini. Et ce n'est pas la seule adaptation méconnue. Alors là, on a changé d'époque, c'est du Darius Milhaud, c'est tiré de La Mère coupable, la troisième et dernière apparition de Figaro chez Beaumarchais, pièce beaucoup moins jouée et beaucoup moins connue. Et pour répondre à la question que vous ne vous posez sans doute pas, David, non, ce n'est pas non plus dans cette œuvre qu'on voit Figaro tailler des barbes. Je ne sais pas si on lira toujours le Figaro dans 200 ans, mais l'esprit du personnage, son aspiration à la liberté et sa lutte contre les injustices sont éternels.
Figaro là, Figaro si, le seul coiffeur de notre ville.
Le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, que vous retrouvez évidemment en podcast sur votre application Radio Classique. Merci Augustin et bon week-end à vous.
Bon week-end.
À suivre, David Barou nous parle de Yann Lequin, le français passé par Facebook et qui rêve d'une intelligence artificielle plus intelligente. Bon courage. Il est 7h53, vous écoutez Radio Classique.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Et si vous laissiez vos émotions prendre le volant ? DS Automobile présente numéro 4, DS Performance Line. Laissez-vous séduire par cette nouvelle édition limitée, dotée de détails exclusifs et de nombreux équipements. Disponible à partir de 395€ par mois sans apport. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. Avec DS, faites le choix de la sérénité grâce à notre garantie premium jusqu'à 8 ans. DS Automobile. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Si votre entourage vous trouve invivable, si vous ne supportez plus la sonnerie de votre réveil, si vous ne savez pas à quand remonte l'achat de votre matelas, c'est qu'il est temps de changer de literie.
L'Espace Topair vous propose les plus grandes marques de literie. Bultex, Treka, Simons, Tempur, Emma, Epeda, André Renault. Dans le plus grand espace literie à Paris et à des conditions exceptionnelles. Alors pourquoi attendre plus longtemps ?
Espace Topair Rive Gauche, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Espace Topair Rive Droite, 56 cours de Vincennes, Paris 12e. Topair.fr.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et David Barou à 7h55.
Avec Invivo, Union des coopératives agricoles françaises engagées pour la transition agricole.
Mon cher David, bonjour.
Bonjour David.
Début décembre, Yann Lequin, l'un des grands noms de l'intelligence artificielle, annonçait son départ de Meta, donc Facebook. Oui. Vous l'avez rencontré hier et il vous a expliqué pourquoi il avait décidé d'arrêter de travailler pour Mark Zuckerberg.
Ouais, alors Yann Lequin, franchement, faut le savoir, c'est pas n'importe qui, c'est le parrain, c'est l'un des pères de l'IA. Il travaillait dessus avant même que l'on sache que ça serait important un jour. Il a été formé dans les meilleures écoles françaises, bien sûr. Il est parti aux États-Unis ensuite, bien sûr, dans les années 80.
Dites bien sûr, c'est la fuite des cerveaux, c'est ça?
Ah oui, c'est normal, ça. Bon. Alors, il a combiné tout le temps recherche fondamentale, enseignement universitaire et puis travail avec les grands groupes. Pendant 12 ans, par exemple, il a été effectivement financé par Meta, et s'il s'en va, pas fâché, précise-t-il, c'est parce que comme OpenAI, Google et d'autres, Meta a décidé de mettre l'accent sur les LLM, les Large Language Models, vous savez, la base de l'IA qui fait tourner ChatGPT ou Gemini. Lui croit que cette forme d'IA, qui est basée sur le monde du texte, va atteindre très vite un plateau. C'est une IA aux capacités qui seront limitées. Et comme il veut aller plus loin, et que c'était plus la priorité de Meta qui est dans une course avec les autres acteurs de la Silicon Valley sur les LLM, eh bien Lequin s'est dit, il s'est rendu compte aussi que sa vision à lui pouvait aboutir prochainement parce qu'on a fait beaucoup de progrès, et qu'il pouvait trouver plus de financement pour atteindre son objectif s'il quittait Meta, et donc c'est pour ça qu'il s'en va.
Alors quelle est sa vision d'une intelligence artificielle qui serait plus intelligent.
Il explique que LLM sont des outils en fait statistiques qui sont capables de deviner le mot suivant le plus probable qui fait le plus de sens dans une phrase. C'est donc très utile pour écrire du code, effectuer des recherches sur Internet, mais c'est pas adapté au monde physique. Pour avoir des robots qui peuvent prendre des décisions ou de vraies voitures autonomes capables de s'adapter à toutes les situations, il faut selon lui une IA qui soit entraînée pas sur du texte mais sur l'image, sur la vidéo. Et il faut que cette IA puisse s'adapter à un environnement totalement imprévisible, car on ne peut pas tout cartographier, tout prévoir dans le monde réel. Lui parle donc d'une nouvelle révolution avec des IA capables de comprendre un vrai monde en 3D. Une IA qui serait un peu comme un homme, elle disposerait d'une mémoire et d'une forme, j'ose le mot, d'instinct. Une IA à qui l'on pourrait fixer des objectifs, des buts, et qui trouverait le meilleur moyen, le meilleur chemin pour les atteindre. Une IA capable de raisonner, de planifier en comprenant les conséquences de ses actions. Et ce que prédit Yann Lequin, c'est qu'il sera capable, d'ici une poignée d'années seulement, de faire tourner ainsi des robots industriels ou des voitures pour commencer. Ça ne sera pas une IA à tout faire du jour au lendemain, mais un langage qui rendra les machines plus intelligentes. Alors franchement, je dois l'avouer, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai quand même envie d'y croire. Et il y en a d'autres qui y croient, c'est ceux qui vont lui apporter des centaines de millions de dollars pour qu'il fasse de son rêve une réalité qui nous concernera tous.
Une réalité et une entreprise française de préférence.
Alors le siège sera sans doute en France, mais il y aura des chercheurs dans le monde entier et les capitaux seront sans doute, je dois l'avouer, anglo-saxons.
David Barou, le décryptage bien français. À lundi, David, à lundi. Voici Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous partons à Prague.
Oui, alors on se dit, oh, Prague, ça va être beau, le pont Charles, etc. Oui, la vérité, c'est que je vais vous parler d'un épisode assez terrible qui s'appelle la défenestration de Prague. C'était au début du XVIIe siècle. On en a entendu parler à l'école, mais généralement, on ne sait plus de quoi il s'agit.
À tout à l'heure, Franck, un peu après 9h pour la défenestration de Prague, tout un programme. La météo, ma chère Lénaïque, la pluie arrive.
Sur les Cévennes en particulier, le pays qui sera sous les nuages avec quelques pluies sur le sud-ouest et sur le centre. L'après-midi sera tout aussi maussade, n'en attendez rien. Vos températures ce matin, 10 à Nice, 8 à Paris, 6 à Toulouse et 7 à Lyon. Cet après-midi, 13 degrés à Biarritz, 10 à Tours et Brest ainsi que 9 à Lille.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire.